Be proud of you.
Quelle indignité.
Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je passais de la poudre de perlimpinpin.
La République, c'est moi.
Politiquement correct sur RCN.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Politiquement correct, l'émission qui vulgarise l'actualité politique. Cette émission est animée par mon camarade Ray.
Et par Ambre ici présente.
Notre émission a pour but de traiter des sujets récents qui ont fait polémique dans les médias et au sein de l'opinion publique. Le but étant de décrypter ces informations et de revenir sur le contexte dans lequel elles s'inscrivent. Pour démarrer l'émission, rien de tel qu'un petit billet d'humeur.
Bienvenue dans le feuilleton du pompier pyromane. Paradoxe après paradoxe, la Macronie n'a vraisemblablement qu'un but, en finir avec nos services publics. Après, je comprends comment nos politiques en auraient quelque chose à foutre de services dont ils ne se servent même pas. Que ce soit dans l'éducation, je doute fort que leurs enfants fréquentent l'école publique, ni les hôpitaux qui sont surchargés, ni tout autre service dédié au peuple. Ils se sont tellement gavés d'argent public, t'as Bayrou qui est maire, député et ministre, à lui seul il cumule 3 emplois, et il revient nous parler de chômage, à ne plus savoir qui fait les poches à qui, mais bon, quand c'est les poches du contribuable, ça y va. Il est revenu avec non pas un, mais 2,49,3 en 10 minutes, après une promesse démocratique, voilà le résultat. Une énième brutalisation du débat, malgré la mise en place d'un pacte parlementaire. Nous parler d'instabilité alors que ce sont ces mêmes dirigeants qui l'incarnent, je trouve ça gonflé et gonflant. En parlant de trahison, comment ne pas évoquer le PS ? Ils ont permis un maintien du gouvernement qui fait passer un budget pire que le précédent qu'ils avaient censuré. Encore un chantage du pompier pyromane. Comment se dire de gauche quand on accepte une telle politique sociale ? Faut-il croire qu'il ne reste plus rien de socialiste au Parti Socialiste ? Difficile d'assumer la politique publique mise en place depuis ces 8 dernières années. Lorsqu'à l'école il manque des profs, de l'eau potable et des toits, il est clair que c'est de la poudre de perlimpinpin à côté du vrai problème de notre école républicaine qui est celui de l'abaya. Comment ne pas censurer un gouvernement qui tient en serrant un xénophobe raciste et colonialiste ? Les fachos sont tellement à l'aise qu'ils parlent même de bagne. L'homme est mort mais pas ses idées. La rhétorique lepéniste a de facto été adoptée dans notre cher gouvernement. Ce feuilleton risque de ressembler au feu de l'amour, il nous faudrait au moins 40 saisons pour faire le tour de ce paradoxe.
Pour rester sur la thématique du paradoxe, parlons de sa quintessence, les États-Unis. Ils sont en roulis total. Trump, en pleine crise d'égo, annonce sans sourciller qu'il intensifie le nettoyage ethnique à Gaza et peu de réactions dans des médias français. Il rêve d'y installer une French Riviera 2.0, mais sans les Gazaouis. C'est un peu comme si on débarquait chez toi, on rasait ta baraque à coups de bombe, et si t'as la mauvaise idée de survivre, on te fout à la porte en te traitant de problème régional. Et ensuite, ces génies de la géopolitique osent s'indigner quand on leur parle de crimes contre l'humanité. Et Trump, alors là, masterclass. Il regarde la carte du monde comme s'il était en pleine partie de Monopoly. Groenland, Canada, Panama, il veut tout s'offrir. 3 territoires souverains, mais bon, c'est pas un problème. Après tout, pourquoi négocier quand on peut menacer, acheter ou raser ? La cupidité version Trump, c'est une aberration. Un mélange de mégalomanie et de complexe du messie sous testostérone. Et pendant qu'on parle de génocide, jetons un œil au Congo, où l'histoire se répète en boucle comme un disque rayé. Cette fois, sans surprise, c'est le Nord Kivu qui prend. Le bilan ? Des décennies de guerre et une crise humanitaire de plus de 6 millions de morts. Mais bizarrement, ça n'indigne personne. Faut croire qu'ils n'étaient pas de la bonne couleur pour mériter des une-chocs et des hashtags bien sentis. Les violences continuent, pendant que les multinationales se gavent sur le dos de cette région en exploitant ses ressources. Un pillage en bonne et due forme, et nous, on regarde ailleurs, comme d'hab. En résumé, entre l'Occident qui joue avec des vies humaines et le tiers-monde qui continue de payer l'addition, on est sur une époque formidable. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons revenir sur l'état de nos services publics. On fera un rapide point sur la politique trumpiste. Pour finir, on reviendra sur la situation au Congo et les relations avec le Rwanda. Pour débuter, nous sommes allés à votre rencontre afin de connaître votre avis sur nos services publics.
Ouais, je viens aussi d'une petite ville, Raon-l'Étape, et là-bas il n'y a pratiquement plus de médecins. Enfin, il n'y en a qu'un pour une ville entière. On n'est pas énormément... pas énorme là-bas, mais un médecin, ça fait quand même chier, quoi. Cette restriction, puis même je pense qu'au niveau des budgets, j'ai l'impression qu'on coupe de plus en plus aux hôpitaux pour mettre on sait pas où. Ouais, quoique aussi dans ma ville aussi, ils ferment une école maternelle, maintenant ils ont plus qu'une école privée. Donc les enfants sont soit obligés de faire 20 à 30 minutes de route tous les jours pour aller dans une école, ou alors aller dans une école privée, et tout le monde n'a pas l'argent d'aller dans une école privée, quoi.
Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, ainsi déclarait Jean Jaurès. Cette phrase pleine de sens accentue l'importance de ce bien commun, fondateur d'égalité et garant de la continuité d'un système social respectueux du citoyen. Cela dit, Plus le temps passe et plus le néolibéralisme le pousse à ses limites et menace sa pérennité.
Depuis leur rôle initial de gestionnaire de la sécurité sociale en 1945, les syndicats ont progressivement vu leur influence décliner au profit de l'État et des technocrates, en particulier après les réformes de 1967, 1996 et 2004. Divisés entre réformistes et contestataires, ils demeurent attachés au modèle social, bien que leur implication dans la gouvernance du système public soit désormais limitée. Il est alors nécessaire de repenser la démocratie sociale afin d'intégrer plus efficacement les syndicats et autres acteurs au processus décisionnel. Aujourd'hui, la gestion, ou plutôt la validation du budget consacré à ce secteur, repose entre les mains des parlementaires, du moins lorsque l'État le permet.
Ce lundi 3 février, à l'Assemblée nationale, a retenti le premier 49-3 du gouvernement Bayrou. Le recours à cet article antidémocratique était pour faire passer un budget délétère pour nos services publics. Depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron n'a pas cessé de mettre en danger le fonctionnement de ces secteurs qui garantissent au peuple des services élémentaires. L'adoption d'un budget est nécessaire pour garantir le fonctionnement d'un État. Cependant, mettre le pays dans l'urgence afin de lui faire adopter de gré ou de force un budget qui le précarise plus, là c'est du macronisme dans toute sa splendeur, dans son rôle de pompier pyromane. Héritage majeur de la précédente République, ces services publics se retrouvent dans différents secteurs qui sont la justice, l'éducation, le travail et la santé.
Concernant les services de santé, en 2023, le constat était alarmant. Presque 5 000 lits d'hôpitaux supprimés. Depuis 2013, ce sont plus de 43 000 lits au total qui ont été fermés. Le but étant de réorganiser les soins vers de l'ambulatoire, c'est-à-dire des hospitalisations de jour uniquement. Emmanuel Macron avait déjà fermé presque 18 000 lits en seulement 4 ans de mandat. Et depuis 2020, le secteur médical est plus que jamais en tension. Les soignants sont nombreux à se plaindre, c'est le personnel qui est impacté avec une saturation dans les services d'urgence, notamment avec des équipes sous tension, ce qui dégrade fortement la qualité des soins.
L'année dernière a été témoin d'une surmortalité aux urgences, un constat qui met encore une fois en lumière la précarité des services de santé. Le nombre d'infirmières et d'aides-soignants est toujours insuffisant. Depuis la crise sanitaire de 2020, la pénurie de personnel n'a fait que s'accentuer. La charge de travail, elle ne fait qu'augmenter, notamment avec le vieillissement de la population, sans pour autant plus de reconnaissance pour les soignants.
De plus, le milieu traverse des déserts médicaux. Ce sont 6 millions de Français qui sont sans médecin traitant, les zones rurales étant les plus touchées. Ceux qui sont en fonction peinent à prendre leur retraite, sachant les conséquences sur leurs patients. Toujours dans le secteur de la santé, c'est l'aide médicale d'État qui a été récemment impactée. Le budget devrait être réduit de 111 millions d'euros. Plus de 5000 médecins alertent sur les risques de cette baisse de dépenses. Ils déclarent ne pas vouloir trier les malades selon leur nationalité ou leur manque de ressources. De plus, il est dans l'intérêt de tous que la santé collective soit prise en compte. La pandémie mondiale nous l'a prouvé. Les soins couverts par l'AME ne représentent que 0,4% des dépenses de soins du pays. Et c'est bien à ça que s'attaque le gouvernement pour faire des économies. La politique menée est ouvertement xénophobe et dangereuse sur les plans sanitaires et sociaux.
En parlant du plan social, la France rencontre de grands problèmes au niveau éducatif. Pour commencer, à Mayotte et en Guyane, le nombre d'enfants déscolarisés entre 3 et 16 ans est alarmant. Ce sont 7% des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation en Guyane contre 8 à Mayotte. L'accès à l'école n'est définitivement pas la même sur l'ensemble du territoire. La disparité se fait fortement ressentir et la promesse républicaine de l'égalité, l'émancipation et l'éducation pour tous n'est pas respectée.
À cela s'ajoutent les conditions dans lesquelles évoluent les élèves et les enseignants. De plus en plus d'établissements sont qualifiés d'insalubres et de vétustes. Entre absence de chauffage et d'éclairage et pollution des lieux avec notamment la présence de métaux lourds comme l'arsenic, le mercure ou encore le plomb, la situation est critique. Le nombre d'enseignants manquants représente lui aussi un scandale. Le nombre de postes supprimés est ahurissant, c'est 2000 emplois qui sont concernés alors même que des enseignants manquent à l'appel et que les classes peinent à avoir cours. Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont aussi en difficulté. À Nancy, ils ont récemment fait grève espérant alerter les pouvoirs publics sur leurs conditions de travail. Ils souffrent d'un cruel manque de reconnaissance et surtout d'une précarité largement ignorée.
D'ailleurs, le secteur de l'emploi est lui aussi en souffrance. Avec une hausse du chômage qui ne semble pas vouloir s'arrêter, le dernier trimestre de l'année 2024 présente une hausse de 3,9% de chômeurs en France. Les personnes les plus touchées par cette précarité sont les jeunes de moins de 25 ans. Pour pallier à cette hausse du chômage, l'État met en place une réforme du revenu de solidarité active avec une inscription automatique de la totalité des inscrits au RSA.
Sans compter sur le fait que la réforme conditionne l'accès à l'aide. Ce sont entre 15 et 20 heures de travail par semaine qui sont désormais obligatoires pour toucher l'aide. Tout le monde n'est pas concerné, mais si ceux qui le sont n'effectuent pas leurs heures de travail, ils verront leur versement suspendu. Les activités restent floues, bénévolat, immersion en entreprise, et le risque de travail gratuit inquiète. Cette réforme du RSA rentre dans le cadre de la loi Plein Travail. En outre, elle oblige les bénéficiaires de cette aide à s'inscrire à France Travail et pratiquer 15 heures d'activité par semaine. De ce système, on peut en tirer trois faiblesses significatives. Une couverture insuffisante du public cible, laissant perdurer des situations de précarité et d'exclusion. Un accompagnement et une contractualisation fragiles, limitant les perspectives d'insertion et nuisant à l'équilibre entre droits et devoirs voulus par le législateur. Et enfin, une difficulté d'accès à l'emploi, compromettant l'objectif central du dispositif, qui est de faire du travail la principale protection contre la pauvreté.
À défaut d'un engagement fort de l'ensemble des acteurs, le RSA risque d'évoluer, pour un nombre croissant de personnes, vers une simple allocation de survie, marquant l'échec des ambitions affichées en 2008 lors de sa création. Le tout dans une économie où ce sont pas moins de 350 000 personnes à la rue, ce chiffre a plus que doublé depuis 2012. Un triste constat qui témoigne de la précarité dans laquelle se trouvent grand nombre de Français.
Notre système semble s'aligner de plus en plus avec celui des États-Unis. Système qui valorise avant tout la propriété privée et la simplification administrative, ce qui n'est pas efficace puisqu'il laisse un déficit budgétaire important comparé aux autres pays. Les États-Unis ont pour aspiration de réformer le gouvernement et de réduire d'un tiers les dépenses de l'État, notamment en piochant dans des services jugés progressistes, comme le planning familial. Dans un système néolibéral où la privatisation des services publics se développe et où la propriété privée est symbole de réussite, le cas états-unien nous montre juste que ce n'est pas rentable. Leur système de santé, qui est essentiellement privé, leur coûte par personne deux fois plus cher qu'en France. Et en plus, l'accès aux soins est catastrophique, sans compter sur le nombre de morts infantiles ou juste l'espérance de vie qui est tout simplement plus faible. Donc nous avons plutôt intérêt à ne pas reproduire ce schéma et à défendre nos services publics. Sur ce, on se retrouve dans un instant après avoir écouté « Ma France à moi » de Diams.
Ma France à moi, elle parle fort. Elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre. Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes. Parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure. Héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors elle se démène et vend de la merde à des bourges, mais la merde ça ramène à la mère un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non,
c'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.
Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS, elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Basile Boli est un mythe et Zinedine son synonyme, elle. Il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous ment, car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent, elle sait gérer une entreprise, elle. Vie à l'heure américaine, KFC, MTV, Base, Footlocker, McDo et 50 Cent, elle. C'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs, elle. C'est des petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange, ouais c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle.
Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.
Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme, elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaît à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit. Elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur, celle qui va d'extrême, celle qui bannit les jeunes, anti-rap sur la FM. chasse le Beaujolais, qui prétend s'être fait baisser par l'arrivée des immigrés. Celle qui pue le racisme, mais qui fait semblant d'être ouverte. Cette France hypocrite qui est peut-être sous ma fenêtre. Celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail. Celle qui se gratte les couilles à table en regardant Laurent Jeanne. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent.
Politiquement correct sur RCN, présenté par Ray et Ambre.
Revenons aux États-Unis, nous allons faire un point sur la relation avec le Moyen-Orient. Mais d'abord, écoutons une réaction sur la question.
J'ai vu l'horrible vidéo qu'il a fait en IA là sur. Il voulait faire la Côte d'Azur sur Gaza. C'est. Et les gens, ils crèvent de faim là-bas. Lui, il veut faire un espèce de complexe hôtelier comme si on était au Texas ou je sais pas où. C'est pas son pays, c'est pas chez lui. Déjà que les gens là-bas, on leur vole leur terre. Si en plus on commence à foutre des énormes bâtiments pour qu'il y ait des millionnaires qui puissent jouer au poker.
C'est pas, c'est un truc horrible, mais personne n'en parle. Autant la Palestine, on en a beaucoup parlé. Et encore, on n'en parle plus alors que c'est toujours le bordel. Et le Congo, on n'en parle pas. Mais c'est pareil, j'imagine qu'il y en a des milliers qu'on connaît pas.
Après la rencontre de Trump et Netanyahou à la Maison Blanche, le président américain a déclaré vouloir le pouvoir sur Gaza et expulser les Palestiniens. En gros, c'est un nettoyage ethnique. Le but initial de cette rencontre était de faire avancer le cessez-le-feu à Gaza. Donald Trump s'allie avec Israël et souhaite que l'Égypte et la Jordanie accueillent les Palestiniens. Dans ce propos, il est sujet de la première puissance mondiale qui accueille à sa capitale un criminel de guerre, un dirigeant génocidaire condamné par la Cour pénale internationale, et cela en toute impunité. L'objet de cette visite, discuter du sort des Palestiniens opprimés et massacrés pour désigner leurs terres comme butin de guerre ou autres projets d'investissement saugrenus.
De nombreux pays se sont déclarés contre ce déplacement forcé. La France rappelle que cela représente une violation grave du droit international. En réponse, 9 pays annoncent la création du groupe de La Haye pour défendre le droit international et la justice. Il a pour but de dénoncer les actions d'Israël à Gaza. Il appelle tous les pays à le rejoindre. La France insoumise est le seul parti politique français à être convié à la constitution de ce groupe, ce qui prouve la crédibilité du parti au sein de la cause palestinienne. Mais les Palestiniens ne sont malheureusement pas la seule cible de Donald Trump. En effet, sa politique migratoire ne repose pas seulement sur le déplacement forcé des Gazaouis, mais aussi et surtout sur une obsession exacerbée pour les migrants aux frontières. Donald Trump a par exemple annoncé vouloir déporter plus de 300 000 sans-papiers à Guantanamo, une prison connue pour pratiquer la torture et pour détenir les plus grands terroristes. Une militarisation poussée aux frontières est à prévoir. Dès son arrivée à la Maison-Blanche en 2017, Donald Trump a exprimé un mépris particulier à l'égard des personnes originaires de pays majoritairement musulmans comme le Yémen, la Syrie, la Somalie, où la guerre et la famine ont déplacé des millions de personnes, déclarant que ces réfugiés pouvaient constituer une menace pour la sécurité nationale. Le président américain adhère pleinement à la théorie complotiste du grand remplacement. Il parle d'immigrés non blancs qui envahissent des pays et remplacent la culture blanche. Donald Trump veut également poursuivre son projet de mur entre les États-Unis et le Mexique. Les demandes de droit d'asile et du droit du sol sont également suspendues pour le moment, ce qui laisse les familles de migrants dans une grande détresse. Certaines associations s'efforcent de trouver des financements pour maintenir les opérations d'aide aux réfugiés déjà présentes dans le pays.
La politique économique de Donald Trump utilise les taxes douanières comme levier de négociation. Après avoir menacé d'imposer des droits de douane de 25% sur le Mexique et le Canada, il a suspendu cette décision pour 30 jours en échange d'engagements sur la lutte contre le trafic de fentanyl et le renforcement des contrôles aux frontières. Cette stratégie vise probablement à obtenir des concessions en vue de renégocier l'accord commercial nord-américain. Toutefois, son approche imprévisible crée une incertitude économique, pouvant freiner les investissements et l'emploi. Cette violence dans la gestion étatique américaine s'opère que ce soit au niveau national et international. En bon conservateur qu'il est, s'en prendre aux droits des personnes LGBT incarne tout un relais de sa démarche politicienne.
Cela a commencé par les personnes transgenres qui ne pouvaient plus modifier leur mention de genre sur leur passeport. Le président des États-Unis a ensuite signé un décret ordonnant le transfert des femmes transgenres détenues vers des prisons pour hommes. Il poursuit avec le ban des personnes trans de l'armée américaine. Et il met également fin à toute aide de l'État pour la transition des personnes de moins de 19 ans. Et récemment encore, Donald Trump signe un décret pour bannir les athlètes trans des compétitions sportives. Toute page mentionnant l'existence de LGBT et le VIH sur les sites gouvernementaux, y compris les hommages rendus aux personnes LGBT décédées, ont été supprimés. Dans l'Ohio, il est désormais obligatoire pour les professeurs d'avertir les parents si leur enfant est LGBT. Cela ne semble être qu'un début pour les personnes de cette communauté, D'ailleurs, lors du sermon à l'occasion de son investiture, l'évêque a exhorté Donald Trump de faire preuve de miséricorde, notamment pour les migrants en situation irrégulière ou les gens de la communauté LGBT+, à savoir les communautés les plus visées récemment par la politique très conservatrice du nouveau président. Après avoir parlé des services publics français, de la situation aux États-Unis, il est temps de traiter le massacre en cours au Congo. L'instabilité que traverse le pays d'Afrique centrale dresse un bilan de pertes humaines alarmant. En effet, les récents événements, notamment avec la prise de Goma par le M23, a laissé 3000 morts et d'innombrables blessés. Cela dit, en remontant aux origines de ce conflit, le nombre total s'évalue à 6 millions de vies humaines enlevées.
Le conflit actuel en RDC trouve ses origines dans l'histoire du Rwanda. Après la Seconde Guerre mondiale, le Rwanda passe sous l'administration belge. Dans les années 1950, les Tutsis adoptent une position anticoloniale, ce qui pousse les Belges à soutenir les Hutus contre eux. Après l'indépendance en 1962, les persécutions contre les Tutsis s'intensifient, entraînant massacres et purges, notamment en 1973. Dans les années 90, des milices rwandaises sont créées pour combattre les Tutsis, avec le soutien des forces françaises. Le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu, suivi de l'assassinat du premier ministre Agathe Uwilingiyimana. Le génocide des Tutsis commence, mené par des milices Hutus, faisant près d'1 million de morts. Malgré l'horreur, l'ONU et les puissances occidentales, dont la France accusait de soutenir les Hutus, n'interviennent pas efficacement. En juin, l'opération turquoise est lancée par la France avec l'aval de l'ONU. Face aux violences, 2 millions de Rwandais, principalement des Hutus, fuient vers des pays voisins, notamment en RDC. Paul Kagame et son mouvement armé Tutsi reprennent le pouvoir. Plus d'1,2 million de réfugiés s'entassent autour du lac Kivu, alimentant les conflits qui ont causé au moins 6 millions de morts. Aujourd'hui, Kagame, l'actuel président du Rwanda, accuse la communauté internationale d'avoir abandonné son pays en 1994 et poursuit son ambition de reconstruire un grand Rwanda. Maintenant, qu'en est-il du Congo ? En 1996, alors que les réfugiés Tutsis sont au Congo, l'armée rwandaise envahit le territoire et renverse le dictateur Mobutu. S'ensuivent deux guerres du Congo menées par la famille Kabila, alors au pouvoir. Elles causeront la mort de millions de personnes. Le M23, groupe armé pro-Tutsi, naît dans ce contexte-là. Le M23 a été créé en avril 2012 par d'anciens membres d'autres groupes rebelles congolais. Ils affirment que le gouvernement n'a pas respecté les accords de paix signés le 23 mars 2009, d'où le nom M23. Ils ont mené plusieurs offensives contre l'armée congolaise et ont brièvement occupé la ville de Goma en novembre 2012. Depuis 2021, le M23 a refait surface et est accusé par Kinshasa et l'ONU d'être soutenu par les forces armées rwandaises.
Le conflit s'intensifie avec l'offensive du M23 à Goma. Félix Tshisekedi accuse le gouvernement rwandais de soutenir militairement les rebelles, une accusation confirmée par un rapport de l'ONU. Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, affirme, je cite, que des troupes rwandaises soutiennent le M23. À Kinshasa, des manifestations dénoncent cette ingérence. Goma, ville stratégique du Nord Kivu, est en proie à des affrontements violents et une crise humanitaire grandissante. La prise de cette ville met en péril la souveraineté de la RDC et aggrave l'instabilité régionale. Ce conflit dépasse le cadre bilatéral et implique plusieurs pays. La RDC, initialement soutenue par le Kenya sous William Ruto, s'est tournée vers l'Angola après un déficit de confiance. Des sommets africains à venir, notamment celui de la SADC et l'Union africaine, pourraient permettre des négociations pour restaurer la paix. L'implication étrangère rend la situation plus complexe. La France et d'autres puissances occidentales, ayant des partenariats économiques avec le Rwanda, adoptent une posture prudente. Pendant ce temps, le M23 exploite les ressources minières du Nord Kivu, attisant les intérêts internationaux. L'avenir de la région repose sur des efforts de médiation pour sortir de cette crise.
Combien de vies humaines doivent être encore sacrifiées pour que le monde ouvre les yeux? Et jusqu'où? Jusqu'où ces massacres iront-ils pour nous faire prendre conscience? Faut-il encore poser l'éternel débat de la valeur d'une vie humaine quand cessera cette géométrie variable concernant nos indignations? Mais bon, gardons les pieds sur terre, cela reste seulement le travail de deux étudiants inspirés et pourquoi pas inspirants. Et on se quitte avec le son Euphorie de Kalash Criminel.
Depuis la naissance, et ça s'aggrave à l'adolescence. Des amis proches deviennent des connaissances. À ta carrière, mes condoléances. Tant que je serai en vie, maman sera toujours dans l'opulence. Sur moi, tu fais que parler. J'espère que t'assumeras les conséquences. T'es me hard à deux drones. Et mon gars t'en dit trop. La sauvagerie au micro. Et
ils deviennent tous accro. Mes frères partis trop tôt. Je vous aime, vous me manquez. Maintenant ils veulent tous des figurines, alors qu'avant ils se moquaient. Les rebelles, honneur qui vous, qui les paye, qui les finance. Ça y est, de notre trempé passé. Marine Le Pen croit la confiance. Liberté, égalité, mixité, c'est ça la France. Et les keufs dans nos quartiers nous traitent de sale noir ou de sale arabe. Moi sur la ruche, je kick salement. Dans mon délire, je suis seul au monde. Je suis pas venu sur terre pour faire l'aumône. Riche comme le roi Salomon. 5 milliards, ça me suffit. 5 milliards, je suis ravi. Sarkozy toujours pas en prison. Pourtant c'est lui qui a tué Kadhafi. C'est l'euphorie. C'est l'euphorie.
RAS.
C'est l'euphorie. Viens même pas réveiller ma folie. Quand je rappe, c'est l'euphorie. Quand je kick, c'est l'euphorie. Je suis calme, respectueux, mais viens pas réveiller ma folie. C'est l'euphorie. C'est l'euphorie.
RAS.
C'est l'euphorie. Viens même pas réveiller ma folie. Quand je rappe, c'est l'euphorie. Quand je kick, c'est l'euphorie. Je suis calme, respectueux, mais viens pas réveiller ma folie. SL9-3, on respecte ni la loi, ni le règlement. Des potes à la fac, des potes en prison, des potes au régiment. Avec mes sauvages dans les quartiers sensibles, je suis dans mon élément. Y'a même ton assassin, le jour de l'enterrement. J'attends que Bulldo soit libérable, je suis replacé comme un général. Ce que je vais leur faire restera mémorable. Kalash Krimi, t'es incroyable. J'rappe simple, efficace. Si je monte le niveau, tu vas rien comprendre. T'es plus âgé, moins mature. Et de la vie, tu vas rien m'apprendre. La vengeance chez nous, c'est deux mecs en moto. Une rafale, semi-auto.
Ta-ta-ta. Sauvage, sauvage, sauvage.
Et le régime est totalitaire. Avec mes frères toujours solidaires. Si leur style d'homme est complémentaire. Le premier qui bouge, on l'enterre. On arrive trop sifflement. Et le rap français, on envahit. On veut tous te voir partir. Comme le président de mon pays. De retour à Kinshasa. Comme un héros je serai accueilli. Dieu est grand, Dieu est grand. Et à ses ordres j'obéis. C'est l'euphorie. C'est l'euphorie.
RAS.
C'est l'euphorie. Viens même pas réveiller ma folie. Quand je rappe, c'est l'euphorie. Quand je kick, c'est l'euphorie. Je suis calme, respectueux, mais viens pas réveiller ma folie. C'est l'euphorie. C'est l'euphorie.
RAS.
C'est l'euphorie. Viens même pas réveiller ma folie. Quand je rappe, c'est l'euphorie. Quand je kick, c'est l'euphorie. Je suis calme, respectueux, mais viens pas réveiller ma folie.